Nous sommes toujours en direct du Musée océanographique de Monaco. Vous venez d'écouter le titre Aquarium. Et c'est tout naturellement que nous allons accueillir Pierre-Gilles, le responsable de l'aquarium du Musée océanographique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur agricole de formation, spécialisé en aquaculture, plongeur professionnel. Et vous animez une équipe de 10 techniciens aquariologistes, une équipe chargée donc des opérations aussi en mer. Aquariologiste, voilà un métier passionnant, en plus méconnu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste? Et éventuellement, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, quelles sont les filières peut-être à prendre pour devenir aussi aquariologiste?
Oui, c'est un métier à part entière avec une formation spécifique qui existe dans de nombreux établissements de formation en France. En général, ce sont des gens qui ont un bagage scientifique et qui vont s'orienter dans ces établissements. En général, des bacs plus 2, bac plus 3, voire au-delà. On peut même aussi faire des études très poussées dans le domaine. Mais disons que l'équipe avec qui je travaille, est vraiment qui est une super équipe, ce sont en général des bacs plus 2 qui ont fait des brevets de techniciens supérieurs et, ou alors des bacs plus 3.
Il y a des brevets techniciens supérieurs pour l'aquariologie?
Oui, oui, absolument. Alors il y a toute une filière de formation qui existe et j'invite les candidats au métier de technicien aquariologiste et au métier de la mer en général de se rapprocher de notre site internet Institut océanographique dans une rubrique spéciale qui permettra d'avoir accès à des fascicules concernant les formations au métier de la mer. Technicien aquariologiste, travailler au contact des mammifères marins par exemple, valorisation des produits de la mer, océanographe, etc., etc. Il y a toute une série de documents extrêmement utiles pour les étudiants.
Je vous voyais tout à l'heure réagir à ce que disait M. Piguet concernant les tortues de Floride.
Oui.
Vous connaissez un centre où on peut se charger d'elles?
Oui, les autorités étant confrontées à la récupération de tortues de Floride de manière massive, malgré l'interdiction de vente de ce reptile en animalerie, ont créé un centre de récupération qui se trouve à Lyon. Je pense qu'on le trouve relativement facilement sur Internet et en se rapprochant de ce centre, on peut éventuellement voir avec eux si on peut déposer une tortue.
Alors on change complètement d'espèce et on retourne sur l'exposition Méditerranée. Une grande partie de cette exposition est dédiée aux méduses.
Oui. Pourquoi ? Les méduses qui piquent, parce qu'elles piquent. Non, parce que c'est une thématique extrêmement intéressante qui... D'abord, montre des animaux qui sont d'une fluidité extraordinaire, avec une esthétique incroyable. Nous sommes au contact des méduses chaque jour, et chaque jour que nous voyons les méduses, nous sommes émerveillés par les méduses. Donc on n'est jamais lassé par ce spectacle. Elles ont une biologie tout à fait extraordinaire, et elles font partie de la biodiversité de Méditerranée. Et elles sont le reflet des grands chamboulements qui sont actuellement en train de se passer dans la Méditerranée et dans les océans du monde.
Qu'est-ce qu'elles permettent justement d'identifier comme problème lorsqu'elles disparaissent ou lorsqu'au contraire elles prolifèrent? Est-ce que c'est un baromètre finalement?
Un baromètre probablement. Beaucoup de gens travaillent sur les méduses, mais ne sont pas encore capables de déterminer avec précision pourquoi elles prolifèrent. Toujours est-il que plusieurs facteurs contribuent. Le changement global avec, par exemple, l'augmentation de la température de la Méditerranée. Les pêches qui ont un impact extrêmement important sur les prédateurs des méduses, la pollution qui peut aussi jouer, et tous ces facteurs se combinent pour faire des modifications qui se traduisent par des explosions de méduses, notamment la petite méduse violette qu'on appelle la pélagie.
Qui elle pique aussi.
Qui est extrêmement urticante et qui crée un problème de salubrité publique sur les plages de Méditerranée et qui ont conduit des autorités, notamment Monaco, à mettre en place des filets anti-méduses pour garantir aux baigneurs de ne pas se faire piquer sur les plages. Et l'exposition, puisque vous parliez de gestes tout à l'heure et de conseils, délivre à nos visiteurs de nombreux conseils pour ne pas se faire piquer par les méduses et savoir ce qu'il faut faire quand on est piqué.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Déjà, ne pas paniquer malgré la douleur, parce que la pélagie est vraiment très très douloureuse quand elle nous pique. Même nous, on se fait piquer parfois alors qu'on est averti. Moi, je conseille souvent d'aller en mer avec un masque, parce que comme ça, on évite les méduses et en plus, par la même occasion, on observe la biodiversité marine. Et c'est ce que fait Pierre Frolin à l'École Bleue. Si on est piqué, ne pas paniquer, sortir de l'eau, ne pas aller sous la douche, plutôt prendre un petit peu de sable sec, le mettre sur l'endroit où on a été piqué, enlever le maximum de tentacules qui éventuellement adhéreraient à la peau, ensuite prendre une petite carte grattée pour enlever les filaments, et puis si les complications arrivent, ne pas hésiter à aller dans une pharmacie, voir un médecin, voir éventuellement un médecin pour éventuellement se faire prescrire un médicament.
De bons conseils, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des espèces rares ici qui sont présentes dans les aquariums du musée?
L'aquarium, comme le musée, regorge de merveilles. Si vous allez à l'aquarium, vous verrez dans chaque aquarium des pièces rares, par leur esthétisme. Pas forcément par leur rareté intrinsèque, mais par leur beauté, par leur rareté en, forme, en termes de forme et de couleur, voire de comportement. Parmi les animaux les plus, je dirais les plus rares, pas les plus rares, mais les plus spectaculaires, il y a les requins, dont Pierre a parlé tout à l'heure, mais on a aussi des hippocampes. On a des magnifiques poulpes et on a une murène qui nous tient particulièrement à cœur, qui est une mémé et qui est arrivée à l'aquarium en 1968 et qui est toujours là à l'aquarium et qui illustre bien le fait que lorsqu'on fournit les conditions propices, les animaux vivent très très longtemps.
Et votre espèce coup de cœur, puisque donc encore une fois chaque intervenant en a une, c'est un peu la mascotte du musée, si j'ai bien compris, c'est l'apogon. C'est ça ?
Apogon.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Un apogon, alors c'est l'apogon des îles Bangaï. C'est pas n'importe quel apogon. C'est un apogon qui vit dans un petit archipel nommé archipel des îles Bangaï, situé à Sulawesi, en Indonésie. Et c'est un petit poisson qui vit dans un périmètre extrêmement réduit et qui est menacé par de nombreuses pratiques de l'homme. La surpêche en priorité, mais surtout le dynamitage des récifs, l'utilisation du cyanure à grande échelle et la surexploitation. Et c'est un petit poisson qui a un mode de reproduction extrêmement particulier. On pourrait parler pendant 2 heures de ce poisson. C'est la seule espèce de poisson marin à garder ses petits dans la bouche une fois qu'ils sont nés. C'est un incubateur buccal qui garde les œufs. Et quand les œufs éclosent, les petits restent dans la bouche du papa. C'est le papa qui incube d'ailleurs, un peu comme l'hippocampe.
Extraordinaire.
Et c'est une espèce qui est tellement extraordinaire qu'on a travaillé dessus depuis 1996, qu'on reproduit ici à l'aquarium de manière courante. Et tous les spécimens qu'on présente ici sont nés chez nous. Et c'est devenu la mascotte, un emblème de la conservation, de la biodiversité, des merveilles de la mer.
Vous avez choisi de nous faire découvrir un morceau de musique également. C'est Camille.
Oui, c'est tout à fait. Je ne connais pas trop la chanteuse. J'ai été complètement séduit par la chanson. Parce que
c'est une chanson a cappella, je le précise.
C'est a cappella, c'est très pur, c'est tout plein de culots, c'est un délice à écouter. Voilà.
Merci Pierre-Gilles.
Je vous en prie.
J'ai tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai, tout dit, maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, ne, tout dit, pas, tout dit, où tu mourras d'ennui, tout dit.
Et nous n'avons pas pas encore tout dit sur la biodiversité marine et nous allons accueillir notre dernier invité de ce live éthique, Denis Allemand. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre scientifique de Monaco, dont les locaux sont ici même, sous nos pieds, bien cachés des regards des visiteurs. Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe.
Bientôt, on va déménager dans de nouveaux locaux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les locaux du Centre scientifique? D'abord, il faut dire deux mots sur ce qu'est le Centre scientifique de Monaco. C'est un organisme de recherche qui dépend du gouvernement princier, qui avait été créé à l'initiative du prince Rainier III et qui, depuis une vingtaine d'années, travaille sur les récifs coralliens. Alors, pourquoi les récifs coralliens ici à Monaco? Tout simplement parce qu'il semble que les récifs coralliens soient des sentinelles de l'état de santé des océans. En tout cas, c'est l'écosystème qui apparaît le plus sensible aux modifications des changements climatiques dont la Terre est affectée. Ces changements climatiques affectent tous les écosystèmes, mais souvent de façon imperceptible, alors que dans le milieu marin, ces changements peuvent se voir visuellement. On peut voir quand il y a ce qu'on appelle des blanchissements de coraux, ça se voit en quelques heures, une augmentation de température de 1,5 degré à 1 degré au-dessus d'un certain seuil. Ça provoque une disparition brutale des algues qui vivent dans les coraux. Et les coraux apparaissent blancs. Et si ça dure un peu trop longtemps, les coraux disparaissent totalement, ils meurent et le récif est détruit.
Et dans ces laboratoires, vous essayez de recréer un peu les conditions de vie des coraux en faisant de la culture.
Tout à fait. Pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux gérer, pour mieux, à la limite, à guérir ces organismes, il faut surtout les comprendre, eux, comment ils fonctionnent. On ne peut pas imaginer un médecin guérir un patient s'il ne connaît pas la physiologie du patient. Donc ce que l'on fait ici, c'est effectivement, en premier, essayer de mettre en place des cultures de ces organismes dans des conditions contrôlées. Donc ça s'est fait depuis une vingtaine d'années. On multiplie en laboratoire ces organismes. On est allé les prélever une première fois en mer Rouge il y a 20 ans. Et depuis, on travaille sur ces organismes de culture et on essaye maintenant de comprendre leur physiologie, savoir comment ils fonctionnent, savoir comment ils se nourrissent, comment ils vivent, comment ils construisent leur squelette.
Donc vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, les deux problèmes majeurs qui préoccupent votre équipe, ce sont le blanchissement et
l'acidification
des océans. Alors en quelques mots, pour l'un et pour l'autre, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, le mécanisme?
Alors le blanchissement, c'est la rupture d'une association symbiotique qui existe entre les coraux, qui sont des organismes animaux, et qui abritent à l'intérieur de leur tissu des petites algues qui font de la photosynthèse. Donc ces petites algues, normalement, nourrissent le corail. Et le blanchissement, c'est la rupture de cette association symbiotique. Une toute petite élévation au-dessus d'un certain seuil peut produire cette rupture. On estime qu'à peu près 20% des récifs, à l'heure actuelle, sont déjà détruits ou en passe de l'être. Deuxième gros problème, qui pour l'instant n'est pas encore visible, mais qui risque de l'être dans les années à venir, c'est l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est le résultat en fait, de l'absorption par les océans du gaz carbonique issu des activités anthropiques. Dans un premier temps, c'est quelque chose de très favorable pour notre atmosphère, puisque ça va diminuer l'effet de serre et donc diminuer l'augmentation de température que notre globe pourrait subir. Malheureusement, une fois dans l'eau, ce gaz carbonique va se dissocier et former de l'acidité. Et c'est cette acidité qui va affecter les coraux, mais pas uniquement, en fait, tous les organismes, même les poissons.
Et vous avez décidé de nous parler plutôt du côté positif des actions qui peuvent être menées dans le cadre de Rio+20 concernant les coraux, et notamment depuis 2008, le récif de Nouvelle-Calédonie qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Quelle incidence directe peut avoir un tel classement sur la biodiversité marine locale?
C'est déjà une prise de conscience de la valeur de cet écosystème, de la valeur biologique de cet écosystème.
C'est la première fois qu'une telle reconnaissance existe?
Pour les récifs français, oui. Le récif de la Nouvelle-Calédonie est le deuxième plus grand récif au monde. Le premier, c'est bien sûr la Grande Barrière de Corail, qui est également inscrite. Le deuxième, c'est le récif de Nouvelle-Calédonie, qui fait quand même 1600 km de long. Ce qui est énorme. Et après, ce que je voulais aussi dire, c'est non seulement un problème de protection, mais aussi la meilleure connaissance de ces organismes. Et parmi cette meilleure connaissance, c'est récemment, en fin d'année dernière, c'est le décryptage de ce qu'on appelle le génome d'un corail, le premier génome d'un corail qui a été totalement décrit.
Et il s'avère que ce génome, justement, a de fortes similitudes avec le génome humain. Est-ce qu'on peut imaginer de futures applications, soit médicales, environnementales?
Oui, tout à fait. On a retrouvé chez ces organismes des gènes que l'on pensait apparaître uniquement chez les vertébrés supérieurs, en particulier les gènes qui affectent la maladie d'Alzheimer.
Merci, Denis Allemand, et merci à tous nos participants qui, j'espère, vous ont apporté un éclairage sur la biodiversité marine et ses enjeux. Merci au Musée océanographique de nous avoir accueillis. Merci à Hervé Pichat pour la technique. On va en conclure cette émission avec votre choix musical qui n'est autre que les Marquises de Jacques Brel. Quelques mots là-dessus, peut-être?
Les Marquises, c'est les récifs coralliens. Jacques Brel, c'est un magnifique artiste. Et Une Marquise, c'est une des dernières chansons de Jacques Brel.
Merci à tous. À bientôt sur Radio Éthique. Restez à l'écoute de la radio du développement durable.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits.